laisse le micro.
Oui. Alors nous allons passer à un temps de questions. Je crois qu'il y a des micros quelque part. Voilà, qu'on fera circuler dans la salle. Je voulais commencer peut-être par une question qui était... bon, c'est l'interprétation qui compte, etc. Mais est-ce que le rapport à l'interprétation est le même, je dirais, quand il s'agit du Coran, ou est-ce que le Coran se prête à un certain type d'interprétation plutôt que l'autre? Et qu'en est-il lorsqu'il s'agit de l'Évangile ou quand il s'agit de la Torah? On sait que les Juifs, par exemple, ont une pratique très forte de l'interprétation et même d'une interprétation polémique, en fait, hein, où il s'agit de ne pas s'entendre pour mieux affirmer la transcendance de la Torah. De l'autre côté, il y a cette prééminence de la charité dans l'Évangile. Et donc, par rapport à une question comme la violence, est-ce qu'on pourrait dire, le Coran, on peut l'interpréter comme quelque chose de violent, comme une religion de paix, c'est comme l'Évangile, ou c'est comme la Bible. Alors, je sais qu'il y a un concept que vous introduisez, qui est le concept de disponibilité. Je voudrais que vous en parliez, parce que ça permettrait d'aller un peu vers la théologie des religions, même si c'est ce que vous refusez de faire, mais par ce concept, vous laissez entendre quelque chose. Alors.
Tout à fait, je vois que vous avez été un lecteur attentif de ce petit livre. Sur l'interprétation en général, le Coran, par son statut de acquis pour vraiment la grande majorité des musulmans de textes révélés directement par Dieu, ce statut pose un certain nombre d'éléments de règles d'interprétation qui ne sont pas rigoureusement les mêmes que celles de la Bible en particulier. J'ai fait un peu d'herméneutique médiévale et j'avais beaucoup aimé travailler ces questions de littéralité, de littéralisme. Je pense que au final, on est obligé, quand on est musulman, de lire le Coran comme au sens littéral, c'est-à-dire dans le sens de voulu par son auteur. Vous savez que la distinction classique pour la Bible chrétienne entre sens littéral et sens spirituel, repose sur le fait que les livres bibliques ont deux auteurs. Enfin, et encore plus, nous diraient des exégètes historico-critiques, mais un auteur humain, c'est un véritable auteur, et un auteur divin, qui est un véritable auteur aussi. Et le sens littéral va être l'explicitation du sens voulu par l'auteur humain. Et l'essence spirituelle, parce que l'auteur divin est capable de mettre plusieurs sens à la fois, va être l'explicitation des différents sens voulus par l'auteur divin. Évidemment, quand on est devant le Coran, on ne peut pas faire cette distinction-là, puisqu'il n'y a qu'un auteur qui est Dieu, et donc il n'y a qu'un seul... il peut y avoir plusieurs sens, ça c'est pas un problème. Dieu peut décider de mettre plusieurs sens, ça n'est pas compliqué. En revanche, on ne va pas distinguer un sens littéral qui serait la volonté de l'auteur et un sens spirituel qui serait la volonté divine. Forcément, les deux sont rassemblés. Le point difficile va être, puisqu'on en est forcément en ce sens-là au sens littéral, va être le littéralisme, qui est une maladie d'interprétation, qui consiste à croire que le sens littéral est donné et qu'il ne se construit pas. Un sens littéral se construit toujours. Je prends un exemple tiré de l'Évangile. Quand Jésus dit « Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la », le sens littéral de ce passage nous dit-il de nous couper la main? Non. Le sens littéral, c'est ce que Jésus a voulu dire. Et il est évident que Jésus n'a pas voulu dire qu'on ne se coupait la main. Le littéralisme, cette maladie de l'interprétation, consistant à penser que le sens littéral est immédiatement disponible sans construction, nous dirait s'il s'agit de se couper la main. Mais vous voyez, le sens littéral, c'est ce que Jésus a voulu dire immédiatement, et il n'a jamais voulu dire il faut se couper la main. Vous voyez la distinction que je veux apporter. Donc, le sens littéral, même littéral, doit être construit. La métaphore, la parabole, les genres littéraires, tout ça sont des éléments qui appartiennent au sens littéral, toujours. Et donc, on a le fait que Dieu soit le seul auteur du Coran, dans la tradition musulmane, ne veut pas dire qu'on doit prendre un premier sens tout à fait bête et méchant. Ça n'empêche pas de construire ce sens littéral, et parfois de manière extrêmement développée. J'en viens à la deuxième partie de votre question, qui était au fond sur la question de la violence, est-ce qu'on peut mettre l'Évangile et le Coran au même niveau? Alors, quand je dis que le Coran, on peut lui faire dire bien des choses, ça ne veut pas dire que le Coran ne dit rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans le Coran et que tout est tellement interprétable qu'on peut tout en tirer. On ne peut pas tout tirer du Coran. Il y a des choses dedans, et il y a dans la tradition musulmane, il y a des éléments qui sont là, et avec lesquels les musulmans essaient de se dépatouiller à leur manière, de façon différente selon les écoles, les courants et les personnalités. Ils le font, pour beaucoup, sincèrement, avec ces éléments-là. Mais ils ont ces éléments-là. Et ces éléments ne sont pas la même chose que l'Évangile. D'ailleurs, tant mieux, sinon je ne sais pas ce que je ferais. Mais il se trouve que je ne crois pas du tout que ce soit la même chose. Je ne crois pas du tout que, on en reparlera peut-être, je pense que les questions du type « Est-ce que nous avons le même Dieu ?» sont des fausses questions, à laquelle il ne faut jamais répondre ni dans un sens ni dans l'autre, parce qu'elles n'ont pas vraiment de sens. Mais donc, le Coran a, et la tradition musulmane avec lui, a une certaine présence d'éléments violents, de versets appelant à des actions violentes. Et c'est ce que j'ai effectivement, dans ce petit livre, présenté comme une forme de disponibilité à un usage violent. Vous avez des musulmans non violents, mais dire que le Coran ou la tradition musulmane est non violente, c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement violent, mais dire c'est Gandhi, non, c'est pas Gandhi, c'est pas vrai. Vous avez des formes de disponibilité à la violence. C'est-à-dire que vous pouvez, sans trop de difficultés, faire une lecture violente du Coran. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire. La preuve, certains musulmans ne le font pas du tout. Et ils sont sincères, ils sont sincèrement croyants. Cette forme de disponibilité, je l'explique dans le livre avec une image que j'espère parlante. Les nazis ont utilisé à tour de bras la musique de Wagner et la philosophie de Nietzsche. On peut dire c'est scandaleux, Wagner n'était pas nazi, Nietzsche n'était pas nazi. Le fait est qu'ils ne se sont pas jetés sur ces personnes-là totalement par hasard. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu faire la même chose avec la musique de Haydn et la philosophie de Kant. Parce que la musique de Haydn n'est pas disponible pour un usage de ce type, et la philosophie de Kant, probablement pas plus. Nietzsche et Wagner offraient davantage de disponibilité à cet usage. Et ça ne les invalide pas nécessairement dans leur essence, mais voyez, il me semble que réellement, pour ça que je vous aurez compris que je n'aime pas choisir quel est le vrai islam, et je ne dirai jamais Daesh, ce sont des faux musulmans. Non, ils utilisent réellement des éléments de la tradition musulmane qui sont là. Ils les utilisent à leur manière, à mon avis, avec des choix éthiques qu'ils font. Ils décident de les utiliser de cette manière-là, mais ils puisent effectivement dans le fond proposé par l'islam. Je crois que l'Évangile se prête beaucoup moins comme livre est beaucoup moins disponible à une lecture violente. Ça n'a pas empêché des civilisations fort chrétiennes de pratiquer des formes de violence parfois extrêmes et parfois même au nom de questions religieuses, ce qui est la preuve que même un texte non violent n'est pas la garantie que on ne peut pas faire de choix éthiques discutables de ce point de vue. Je suis très heureux en plus de revoir Olivier, que je n'ai pas vu depuis bien longtemps, parce qu'on était à l'école normale ensemble.
C'est vrai, c'est un plaisir partagé. Adrien, est-ce que tu peux partager avec nous ce que ton étude et ta connaissance de l'islam t'inspirent en termes de moyens de résistance au développement de l'islam dans nos pays d'Europe? Et deuxièmement, en termes d'évangélisation des musulmans?
Alors, autant la question de l'évangélisation des musulmans m'intéresse, autant la résistance à l'islam ne me paraît pas quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, précisément parce que j'entends annoncer l'évangile, et que c'est un peu le sens que j'ai souhaité donner à ma vie en rentrant dans l'ordre dominicain, je reconnais à d'autres la même liberté qui consiste à partager avec qui ils veulent ce qui les fait vivre. Donc je ne suis pas en train de me dire il faut absolument résister. Je dis non, il faut, soyons de vrais chrétiens plutôt que ne soyons pas musulmans. Voilà. Alors comment évangéliser les musulmans ? Une vaste question, qui est une question importante et que vous pouvez d'ailleurs me retourner en me disant mais très bien, vous venez de dire que vous êtes rentré chez les Dominicains il y a 11 ans pour annoncer l'évangile et vous passez vos journées dans un bureau poussiéreux au Caire à étudier des textes encore plus poussiéreux. D'une tradition religieuse différente, c'est peut-être des choix discutables. Choix que je n'ai pas fait moi-même, d'ailleurs, on m'y a envoyé, c'est la mission que l'Église m'a donnée. Mais je pense que l'Église n'a pas fait n'importe quoi en la matière. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle évangéliser. Évangéliser ne consiste pas à faire de la foi chrétienne un élément de plus dans la concurrence effrénée à laquelle est livré le monde que nous connaissons. Vous voyez qu'on est constamment à devoir choisir entre Pepsi et Coca, entre la droite et la gauche, entre tout ce que vous voulez. On est sommé constamment de choisir son camp avec des gens tout à fait bienveillants qui veulent absolument nous faire rentrer de leur côté, nous mettre la main dessus. Je crois que l'évangile, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évangéliser pour chercher à mettre la main sur les gens en leur disant « Mais si, venez avec nous, comme ça on sera plus nombreux. Et comme ça, on aura gagné. » Je me moque un peu, mais je le ressens moi-même aussi, cette envie-là. Vous savez, c'est le deuxième péché de David qui est moins connu que le premier, mais qui est peut-être plus grave. On ne comprend pas. C'est quand David, à la fin de sa vie, décide de faire compter ses troupes. Enfin, faire le recensement d'Israël. On se dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait de grave ? Ben, ce qu'il a fait de grave, c'est qu'il s'est dit, l'important, ça va être d'être les plus nombreux, parce que comme ça, ça voudra dire qu'on a gagné. Et ça n'est pas certain. L'évangile, au contraire, je crois, évangéliser, c'est être capable de dire à tous qu'il n'existe pas que cette logique de concurrence, et qu'ils sont aimés par Dieu, inconditionnellement, dans le Christ. Et donc, pas chercher à les embrigader, à les avoir avec nous. Voilà, je pense que l'évangélisation, c'est d'abord ça. Et à partir de là, qu'est-ce qui va évangéliser ? Ben, c'est pas nous. Ce qui évangélise, c'est toujours le contact avec le Christ. Si on a une approche, si on se dit on va évangéliser par nos propres forces et aller convaincre avec des arguments marketing imbattables les gens de devenir chrétiens, on pourra faire des baptêmes de cette manière-là, mais je ne sais pas si on fera des chrétiens. Si évangéliser, c'est permettre, d'une manière qui nous dépasse toujours un peu, cette rencontre avec le Christ, qui, elle, convertit. Or, force est de constater qu'entre chrétiens et musulmans, cette rencontre du Christ n'est pas tout à fait simple. Pour le partir d'un fait historique massif, les missions chrétiennes, qui dans le monde entier sont parties en plusieurs vagues, fonder des églises locales, qui ont depuis leurs propres clergés, leurs propres évêques, tout ça, enfin, ça a marché absolument partout, sauf dans le monde musulman. Dans le monde musulman, et ce n'est pas parce que ça n'a pas été essayé, ça a été essayé, il arrive qu'il y ait des conversions individuelles, mais ça ne va jamais beaucoup plus loin. Ce n'est pas la même chose en France, mais le contexte est différent. Pourquoi ? C'est un fait à prendre en compte. On ne peut pas simplement se dire c'est parce qu'on a manqué d'audace et il faut aller à un moment parler de Jésus. Ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Alors, option numéro 1, parce que Dieu ne veut pas que les musulmans deviennent chrétiens. Je ne sais pas. Après, c'est lui qui sait, mais je ne crois pas. Deuxième option. Si c'est, non pas la force de nos arguments, parce que je ne doute pas que les meilleurs arguments aient toujours été développés, d'ailleurs, ce sont à peu près toujours les mêmes qu'on développe avec constance depuis le XIe siècle. C'est très étonnant de voir ça. Les arguments apologétiques musulmans anti-chrétiens et chrétiens anti-musulmans sont les mêmes pour les musulmans depuis le IXe siècle, pour les chrétiens depuis le XIe siècle. et à peu près toujours. C'est frappant. Manifestement, ces échanges d'arguments apologétiques et polémiques n'ont jamais permis de faire connaître le véritable visage du Christ. Parce que peut-être la polémique de puissance à puissance, où on considère l'autre comme l'adversaire, n'est pas la meilleure manière de faire apparaître ce visage. Le monde que j'ai sous les yeux est, pour le résumer trop vite, celui de deux forteresses qui se font face et de forteresses de méfiance et de crainte devant la forteresse d'en face. La forteresse de l'Occident, vous la connaissez bien, je n'ai pas besoin de vous la décrire, qui considère de plus en plus, en particulier depuis les années 70-80, que l'islam est une menace, et une menace pour sa propre civilisation. Et ça, c'est assez angoissant. On se dit, mais les musulmans viennent, ils arrivent chez nous, ils font des conversions, et ils sont actifs, et ils veulent remettre en question notre mode de vie de toujours. Alors, ça crée des angoisses qui sont parfois évidemment excessives. Quand on demande aux Français, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais quand on demande aux Français quelle est la proportion de musulmans dans la population française, ils répondent en général entre 30 et 40%. La réalité est plutôt entre 7 et 8%. Mais ce sentiment-là d'écart aussi massif exprime une angoisse qui existe. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et elle existe parce qu'elle est liée au sentiment d'une menace existentielle. Il ne s'agit pas juste d'une concurrence, mais que réellement, ceux qui sont en face veulent nous détruire, détruire ce que nous sommes. Alors évidemment, c'est un peu angoissant. Je la constate, cette forteresse-là. Il me semble important, du coup, de garder à l'esprit qu'une forteresse presque symétrique, pas tout à fait, existe aussi. Mettez-vous à la place, par exemple, d'un Égyptien, puisque c'est un peu le pays que je connais, d'un musulman égyptien. Si vous lui dites que l'islam est conquérant et menaçant et est en train de partir à la conquête de l'Europe, il va vous regarder avec des yeux ronds. Il va vous dire, attendez, conquête, qui a conquis qui, historiquement? Et qui fait encore des opérations militaires chez qui? Quel mode de vie traditionnel a été largement détruit? C'est le mode de vie occidental qui fait qu'on s'habille comme les Occidentaux, ou c'est notre mode de vie traditionnel à nous? Est-ce que les Occidentaux ne sont pas en train de chercher à nous détruire? Alors, Occident chrétien, tout ça est souvent un peu flou, mais... culturellement, en Occident, je ne pense pas que vous ayez vu beaucoup de films venant du monde arabe au cinéma cette année. Alors que si vous allez en Égypte, comme le monde entier, vous allez voir Batman et Spider-Man. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a une angoisse dans le monde arabo-musulman de se dire, mais ils veulent nous détruire complètement. Et ils sont beaucoup plus forts que nous. Et donc, vous avez ces deux angoisses réciproques qui sont absolument terribles parce qu'elles se fondent sur l'idée que l'autre veut nous détruire. Alors, et dans ce cas-là, on ne peut pas tellement commencer à discuter. Et puis ces deux forteresses ne peuvent pas du tout s'ignorer, puisque les interactions entre les deux sont constantes, et pas seulement par l'immigration en Europe. Je crois que cette situation-là, elle ne permet absolument pas à un musulman vivant aujourd'hui dans le monde arabe, elle permet très difficilement à ce musulman de rencontrer le Christ, puisque le Christ est a priori associé à une menace existentielle. Et donc, si on veut évangéliser, je crois qu'il faut nous évangéliser aussi. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est ce que Saint Dominique disait. Si on veut annoncer l'évangile, il faut le vivre. Il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas 36 choix. Vivre l'évangile, je crois, c'est essayer de désarmer. De désarmer cette méfiance réciproque. C'est désarmer cette inquiétude fondamentale. Et chercher à écouter ce que les gens d'en face peuvent avoir à dire sur eux-mêmes. D'abord parce que c'est en fait assez intéressant. C'est ce qu'on essaie de faire donc au Caire, j'appartiens, vous l'avez rappelé, à l'IDEO, l'Institut Dominicain d'Études Orientales, qui travaillent sur l'islam avec des musulmans. C'est notre particularité. On travaille, on fait un travail universitaire, mais on est en pays musulman et avec beaucoup de musulmans, on travaille avec eux. L'intérêt de cette démarche, qui n'est pas le tout, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de sauver le monde, hein, malheureusement, mais de toute façon, le monde a déjà été sauvé. Mais l'intérêt de cette démarche, c'est de devenir, en écoutant sincèrement ce que les musulmans ont à dire sur eux-mêmes, en prenant au sérieux leur propre discours, sans se dire « c'est une façon d'essayer de nous tromper pour nous ». Non, non, on va essayer de le prendre au sérieux, de le travailler vraiment. De cette manière-là, on devient, et ça c'est mon expérience courante, des témoins crédibles du Christ. On peut le devenir, parce que là, soudain, je dis « tiens, mais c'est marrant, vous vous intéressez honnêtement à nous sans essayer de nous tromper, ni même de nous convertir. » Mais alors, du coup, c'est quoi votre truc? C'est quoi le christianisme? Et ce qu'on fait là, enfin, on est une petite goutte d'eau, mais je pense qu'on a besoin, de façon urgente, mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui prendra toujours du temps, de mettre fin à ces 14 siècles de polémique et de méfiance réciproque. À mon avis, c'est ça l'urgence pour pouvoir évangéliser.
Alors, il nous reste une minute.
Alors, je suis désolé, je vous parle très longtemps.
Je vais prendre encore une question, mais ça veut dire que la réponse devra être...
Synthétique.
Ah, bah, très synthétique.
C'est tout moi.
Alors, peut-être un étudiant, c'était pas mal, on n'a pas entendu l'étudiant. Oui, Mathieu. Je suis désolé pour les autres, vous pourrez peut-être voir le frère après, mais après, on doit avoir un peu de temps de pause. Voilà, merci.
Alors, il y a une tendance en islam dont on parle pas mal, qui est une tendance à une interprétation historico-critique du Coran. Ma première question, c'est est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des traces d'essayer de recontextualiser selon la vie de Mahomet, différentes interprétations, etc. Et la deuxième, est-ce que c'est possible? Déjà parce que le Coran étant parole de Dieu, est-ce que c'est possible d'avoir cette démarche-là? Et deuxièmement, est-ce que c'est possible vis-à-vis des faibles éléments historiques dont vous parliez? Est-ce que c'est une démarche qui est faisable?
Alors, je vais essayer de répondre vite, mais c'est une question très riche. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la méthode traditionnelle d'explication du Coran, la plus traditionnelle qui soit, c'est ce qu'on appelle les asbab et nuzul, les circonstances de la révélation. On va chercher dans les sources sur la vie du prophète, dans quelles circonstances tel ou tel verset a été révélé, et pour en comprendre le sens, on va donc se référer aux circonstances. On va se dire, ah bah, c'est parce qu'il y avait ce problème-là dans la communauté primitive que Dieu a envoyé ce verset, et donc le sens de ce verset, c'est ça. Ça, les musulmans ont toujours fait. Ce n'est pas l'historico-critique. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'historico-critique, c'est simplement une mise en contexte qui, d'ailleurs, souvent tombe très, très bien. C'est-à-dire que vous avez dans les sources de la vie du prophète des choses qui vous expliquent les versets les plus obscurs. Alors, si vous avez mauvais esprit, ce qui m'arrive parfois, vous pouvez penser que précisément ces anecdotes de la vie du prophète ont été écrites selon une méthode... juive traditionnelle d'interprétation biblique, ces éléments ont été écrits pour expliquer le verset. Et c'est ce que beaucoup d'historiens, chercheurs pensent aujourd'hui. Il y a des fois où ça tombe tellement bien qu'on peut penser que précisément on a écrit ça. Donc cette contextualisation, elle est habituelle, elle est d'un point de vue scientifique discutable, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Je n'ai jamais prouvé que... Mais évidemment, on peut être un peu dubitatif. Il est très difficile, en revanche, d'avoir une approche historico-critique au sens propre, en cherchant à se fonder sur vraiment la façon dont le texte a émergé, parce qu'on n'en sait pas assez. Vraiment, aujourd'hui, on n'en sait pas assez. Ça ne veut pas dire qu'on n'en saura jamais assez. Mais aujourd'hui, c'est tellement hypothétique que ça devient un peu absurde. Peut-être question corrélée à celle-là, que beaucoup de gens se posent, on entend très souvent des gens dire on a fait sur la Bible justement on a accepté de la méthode historico-critique, il est temps que les musulmans fassent la même chose avec le Coran et enfin on pourra discuter entre gens civilisés. Alors ça me paraît être une exigence à la fois démesurée et inutile. Démesurée parce que demander aux musulmans de cesser de croire que le Coran est la parole de Dieu révélée directement, c'est, si vous voulez, à peu près demander aux catholiques de devenir enfin des gens raisonnables et de laisser tomber leurs histoires de résurrection. Et enfin, on pourra discuter un peu avec eux, hein, parce que c'est aussi central que ça. Donc c'est une demande qui est à peu près impossible et je pense à peu près inutile parce que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, le fait que ce soit la parole révélée de Dieu n'interdit pas d'élaborer de l'interprétation. On n'est pas obligé de faire une lecture littéraliste parce que c'est la parole révélée de Dieu. Et vraiment, toute l'histoire intellectuelle de l'islam le montre.